Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène-Delforge, chaire religion, histoire et société dans le monde grec antique.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce sixième cours. Et pour ce cours, je vais enfin honorer l'annonce que je fais depuis plusieurs semaines, à savoir de vous proposer une réflexion sur le serment dans sa relation avec le sacrifice. Donc, j'y arrive aujourd'hui et je poursuivrai ce thème pendant plusieurs semaines. Alors, le serment, c'est évidemment une thématique particulièrement vaste dans la mesure où c'est un processus qui engage la manière même dont les humains vivent en société. Alors si je le dis en grec, c'est la manière dont les Grecs vivent en polis, dans une polis, une cité. Si on doit traduire en grec le terme français de société, c'est polis qui est finalement la traduction grecque la plus adéquate. Donc quand on parle d'humains qui vivent en société, ce sont, à l'échelle des Grecs, c'est la vie en polis. Alors la phrase sans doute la plus souvent citée dans les travaux qui se penchent sur le serment en général est tirée d'un discours de l'orateur athénien du IVe siècle, qui est aussi un politique, à savoir Lycurgue. Et il affirme dans le discours contre Léocrate, je lis avec vous, sachez-le bien aussi Athénien, donc il s'adresse, puisque nous sommes dans un procès, dans le cadre d'un procès, il s'adresse aux jurés, le serment est ce qui maintient la démocratie. Cette affirmation, fondamentalement, semble avoir été ciselée pour servir d'épigraphe à n'importe quel travail sur le serment, que ce soit en Grèce ou ailleurs, et ça ne manque pas. Mais au-delà du caractère lapidaire et donc très efficace de l'affirmation que vous avez sous les yeux, les développements qu'il encadre dans le contre-Léocrate ne sont pas moins intéressants, sont même davantage, mais ils sont moins souvent cités et moins souvent analysés. Le caractère efficace de ce genre d'affirmation lapidaire est irrésistible, mais je vous propose de lui donner un peu de substance et de contexte. Donc si l'on prend le paragraphe entier du contre-Léocrate, que nous dit l'orateur ? Sachez-le bien aussi athénien, donc je le répète, le serment est ce qui maintient la démocratie. Car il y a trois éléments sur lesquels est établie la vie en cité. Le magistrat, le juge, le particulier. En fait, chacun d'entre eux donne ce gage de confiance, et ce, avec raison. Car beaucoup de criminels ont déjà trompé les hommes et ont pu leur échapper, en sorte que non seulement ils ont esquivé les dangers immédiats, mais qu'ils conservent pour la durée de leur vie l'impunité de leurs crimes. Mais un parjure ne se dérobe pas aux dieux et n'élude pas leur châtiment. Si ce n'est lui, ce sont ses enfants, c'est toute sa lignée, toute la lignée du parjure qui est vouée au plus grand malheur. Donc vous voyez, voilà, ça c'est le contexte de cette phrase qui est en général citée de façon totalement déconnectée de son cadre d'énonciation. Vous voyez donc ici que c'est au cœur de la vie en cité que l'orateur place le lien spécifique qu'est le serment, à savoir dans la littéralité du grec, ce qui tient ensemble. Vous voyez ici le synécon, donc c'est la formation du substantif au départ du verbe, donc ce qui tient ensemble la démocratie. Vous voyez aussi que j'ai traduit politeia par vie en cité, et c'est une des modifications que j'ai apportées à la traduction de la collection des universités de France, même si, il faut bien le reconnaître, la proximité de la notion même de démocratia pourrait justifier aussi de traduire politeia ici par régime politique. Je vous avais parlé des différentes possibilités de traduire politeia. Mais les trois piliers qui constituent ici dans ce texte la politeia comportent le magistrat, le juge, et aussi les particuliers. Les particuliers, donc, on dépasse le cadre du pouvoir délibératif et judiciaire. Ce dont parle Lycurgue, je pense, ici, c'est donc du politique, et pas seulement de la politique, pour reprendre l'alternative que j'avais rappelée il y a quelques semaines. De ce point de vue, la traduction par « vie en cité » rend mieux compte de cette dimension du terme « politeia ». Et que fait le serment? Puisque c'est cela, évidemment, que je vise aujourd'hui. Il construit la confiance, la pistis. Il est le gage, en ce sens, que chacun donne à différents moments de la vie civique dont il est acteur, que ce soit quand il assume une charge publique, une charge officielle, c'est le magistrat du texte de Lycurgue, qu'il siège au tribunal ou dans n'importe quel autre contexte. Et c'est pour ça que la mention du particulier est intéressante. On a entreaperçu précédemment cette exigence dans l'engagement formel sur la légitimité d'un enfant, dans le cadre des fratries, par exemple. C'est déjà l'élément du serment que nous avons vu apparaître précédemment. À la confiance, la pistis intimement liée au serment, s'oppose dans ce texte l'impunité éventuelle de celui qui n'a pas donné de tel gage. Arrive alors dans le discours de Lycurgue le troisième terme de la relation que le serment met en place. Les dieux eux-mêmes, auquel est rapporté le châtiment du parjure, fut-il différé sur plusieurs générations. Les dieux sont en prise directe avec la confiance donnée, mais tout l'enjeu de mon analyse du serment en lien avec le sacrifice sera d'évaluer, de comprendre à quelle position ils se trouvent, donc les dieux, dans l'équation. Ici, on voit apparaître la sanction du parjure, mais on verra que toute une série de formulations rendent la relation plus complexe. Donc, premier point, quelle position les dieux occupent dans l'équation? Deuxième point, comment le sacrifice participe de cette construction de la place des dieux dans le processus du serment? Donc, ce sera les deux grandes interrogations qui vont traverser mes différentes leçons sur le serment. Afin de poser le cadre plus général de ma réflexion, je vous propose de quitter provisoirement l'Athènes du IVe siècle, où nous sommes allés directement avec le contre-Léocrate de Lycurgue, pour relire, vous savez que je n'y résiste jamais, les vers des anciens poètes qui parlent de serment, parce qu'ils en parlent aussi. D'où le titre de la leçon que je vous mets sous les yeux, Sacrifice et serment, ouverture poétique, 1. S'il y a un, c'est qu'il y aura deux, et la semaine prochaine, je poursuivrai donc dans cette lignée de l'analyse de la poésie archaïque. Le premier passage qui m'intéresse, que je vais analyser avec vous, est un fragment d'une œuvre qu'on appelle la Titanomachie, donc le combat des titans, contre les titans. En effet, vous le savez, l'Iliade, l'Odyssée, l'œuvre attribuée à Hésiode ne sont finalement que les pointes émergées d'un ensemble beaucoup plus vaste dont nous n'avons quasiment rien conservé. Il y avait donc toute une série d'œuvres poétiques, toute la poésie épique archaïque nous échappe. Et il suffit d'ouvrir l'édition que, en 1996, Alberto Bernabé a consacrée à ce corpus des poèmes épiques dans la collection Teubner, qui est une collection très importante en lettres classiques. Et en ouvrant cette édition, on ne peut que constater l'étendue du naufrage. On a de pauvres fragments de tout cet ensemble. Et encore, dans cette édition, Bernabé avait laissé de côté les fragments orphiques auxquels il a consacré un autre volume. Mais même dans ce volume dont vous avez la référence sous les yeux, on a en fait une trentaine de textes, de fragments, qui proviennent d'œuvres épiques archaïques perdues. Et pour vous donner juste un ordre de grandeur, si l'on prend la Thébaïde, qui était une épopée qui, autour du siège de Thèbes, hein, dans l'histoire d'Édipe et ses fils, autour du siège de Thèbes, correspondait en fait à ce que l'Iliade propose pour le siège de Troie, en termes d'ampleur du propos, au lieu des 7000 vers que l'on peut escompter pour la Thébaïde, on en a 20 qui nous sont parvenus. Donc, vous voyez l'ampleur de ce naufrage. Alors, de la Titanomachie, qui m'intéresse ici, donc qui chantait le combat entre les dieux olympiens et les titans, il reste donc quelques fragments d'un ensemble dont on ne connaît pas bien l'ampleur, mais finalement, les fragments qui nous sont parvenus ne donnent même pas un commencement d'idée de la totalité dont elles émanent. Pourtant, c'est un de ces fragments qui m'intéresse. Il s'agit en fait de deux vers qui nous ont été transmis par le père de l'Église, Clément d'Alexandrie. Donc, dans son traité intitulé Les Stromates, et vous voyez donc la manière de citer, évidemment, on a la source, Clément d'Alexandrie, qui est le citateur, et puis le fragment qui en a été déduit par l'éditeur dont je vous ai parlé dans la collection Teubner, et donc on sait que ça relève de la Titanomachie. Alors, que nous dit ce passage ? Donc, je commence par la voix de Clément, donc je n'ai pas extrait totalement le fragment de son contexte. Que nous dit Clément ? Hermippos de Berytos, donc de Beyrouth, Hermippos de Berytos, appelle sage Chiron le centaure, dont l'auteur de la Titanomachie dit qu'il fut le premier qui, et là on a la citation qu'on peut espérer littérale des vers de la Titanomachie, je les lis avec vous, donc le premier qui, bon là c'est toujours la voix de Clément, puis on passe manifestement à la Titanomachie, conduisit l'espèce des mortels sur la voie de la justice en leur montrant les serments, les sacrifices sacrés et les signes de l'Olympe. Hermippos de Beyrouth est un grammairien du IIe siècle de notre ère, donc il est plus ou moins contemporain de Clément d'Alexandrie. On n'a pas grand-chose de cet auteur, juste voilà, des citations de ce type-ci, et il n'est pas certain qu'il avait encore sous les yeux un texte proprement dit de la Titanomachie dans sa totalité. Et la transmission des vers cités par Clément a été discutée. Non seulement on a des fragments, en plus leur transmission doit être évaluée. Donc vous voyez la complexité de tout le travail philologique qui est sous-jacent à l'interprétation qu'on peut donner de ces éléments. La transmission, disais-je, donc, a été discutée et j'adopte ici les corrections qui ont été proposées par Giambattista d'Alessio dans un article dont vous avez la référence ici. Et vous voyez que j'ai mis donc ici le vers transmis par les manuscrits de Clément d'Alexandrie. Alors vous voyez que Orcus, Caetus, Ias, ça allait assez bon. Puis alors on avait un Hilaras qui ne fait pas sens à l'époque à laquelle est censée remonter la Titanomachie. Donc la proposition c'est Hilaras. Et puis surtout on a ce schémata, donc les schémas, les figures que d'Alessio propose de remplacer par schémata, les signes. Et ça fait davantage sens. Et paléographiquement, la correction peut s'entendre. Toutefois, il reste encore quelques incertitudes et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer, enfin au plaisir ou plutôt au devoir de vous montrer les incertitudes qui grèvent le travail interprétatif. Il reste quelques angles morts, je dirais, dans cette affaire parce que fondamentalement, si, d'un point de vue chronologique, La titanomachie remonte bien, comme certains le prétendent, au 7e siècle avant notre ère, donc ce serait un poème plus ou moins contemporain de la poésie hésiodique. Si, effectivement, cette date est correcte, on a deux autres mots qui posent problème. Un, pour lequel vous devez me croire sur parole, dikaiosune, et qui, effectivement, exprime la notion de justice, mais à partir de la période classique. Si vous vous souvenez, et on va encore le voir aujourd'hui, à la période archaïque, c'est Dike qui exprime cette notion. Et puis, là, si vous m'avez suivi l'année dernière, vous vous en souviendrez peut-être, Tusia, le substantif Tusia, est aussi plus tardif que la poésie archaïque. C'est à partir du 5e siècle qu'on voit le terme attesté. Dans la poésie archaïque, vous vous souviendrez que le sacrifice, c'est faire des hieras. C'est comme ça qu'on l'exprime, hierar et zain. Donc, on voit bien que le vocabulaire, en tout cas, tel qu'il est présent dans ces vers, donc non seulement Tusia et hilara et schemata posent problème, mais si l'on adopte la datation haute de la titanomachie, ces deux termes-là posent aussi problème. Donc, je serais plutôt tenté, sur ce fondement-là, de descendre la datation de la titanomachie, comme certains philologues le proposent, vers 500 avant notre ère, parce que là, effectivement, Dikaiosune et Tusia fonctionnent parfaitement. Bon, je ne voulais pas, je dirais, mettre sous le tapis cette difficulté, mais quelle que soit la date effective, finalement, ces vers m'intéressent parce qu'ils offrent un matériau particulièrement pertinent pour mon propos. Donc, vous voyez que ces vers font de Chiron, le centaure, donc le précepteur d'Achille lui-même, un bienfaiteur de l'humanité, à l'instar de ce que l'on trouve ailleurs pour d'autres figures, dont la plus célèbre est évidemment Prométhée. Donc la comparaison avec la figure de Prométhée est irrésistible face à ce fragment. Alors Prométhée, sa célébrité a évidemment traversé les âges. C'est lui qui, dans la Théogonie, bon, je n'ai pas résisté évidemment au plaisir de confronter des illustrations de cette traversée des âges, puisqu'on passe d'une coupe laconienne anonyme du 6e siècle avant notre ère à un tableau de Gustave Moreau en 1868. Et vous le savez pertinemment bien, parce que ce sont des choses dont je vous parle régulièrement. C'est Prométhée qui, dans la Théogonie, donne aux humains la maîtrise du feu. On a revu les passages l'année dernière. Maîtrise du feu, le feu étant évidemment un bienfait, donc à cet égard, il est bienfaiteur de l'humanité. Le cadre du sacrifice, je vous en ai régulièrement parlé, est plus ambigu, dans la mesure où c'est le partage inégal d'un bœuf pour tromper Zeus qui en crée les conditions. Donc c'est une ruse qui est derrière. Deux siècles plus tard, le Prométhée enchaîné d'Échille met aussi en scène le titan supplicié, donc Prométhée enchaîné à son rocher, qui va énoncer tous les bienfaits dont il a gratifié l'humanité. Je vous les résume. Les mortels étaient des enfants désemparés avant son intervention. Il en a fait des êtres capables de penser, capables de comprendre les cycles du temps, donc c'est lui qui parle. Il leur a montré l'art du nombre, l'art des lettres. Il leur a enseigné la mise sous le joug des animaux, donc par voie de conséquence l'agriculture, la navigation à voile, la métallurgie. Il leur a appris à soigner et aussi, et c'est là évidemment que le point central pour mon propos s'esquisse, ainsi que les multiples formes de la mantique, donc la divination, qui sont explicitement des semata, des signes divins que l'on discerne dans les rêves, dans le vol des oiseaux, les viscères, des animaux, ou encore, et c'est le passage, enfin les deux vers que vous avez sous les yeux, enfin les deux morceaux de vers, je cite, « Il a rendu clair, donc j'ai rendu clair, dit-il dans la tragédie, j'ai rendu clair les signes des flammes jusque-là obscures. » Vous voyez ici semata, comme la correction proposée par D'Alessio dans le fragment de la Titanomachie. Donc, ce qu'il a permis, c'est l'interprétation des signes qui passent par la combustion des parts divines au feu de l'autel, toutes choses, des parts divines, dont je vous ai abondamment parlé l'année dernière. Avant de revenir à Chiron dans la Titanomachie, je ferai un bref détour pour que le cadre soit véritablement complet. Je ferai un bref détour par cette autre version très célèbre des bienfaits de Prométhée, revue par Platon dans le Protagoras. Le récit du sophiste, donc, qui, dans le dialogue de Platon, va parler, évoquer le mythe de Prométhée revu à sa sauce, le récit donc, parle d'un moment de l'histoire du monde où les hommes et les animaux n'existent pas encore, mais bien les dieux. Et ce sont les dieux qui vont façonner les deux espèces mortelles que sont les hommes et les animaux à l'intérieur de la terre en mélangeant de la terre et du feu. Avant que ces êtres ne voient le jour, donc les hommes et les animaux, les dieux confient à Prométhée et à son frère Épiméthée la tâche de les pourvoir du nécessaire pour leur existence. Et le passage est très célèbre, hein, Épiméthée demande à se charger de cette tâche tout seul, ce que Prométhée lui laisse faire, et puis Épiméthée donne tous les éléments nécessaires aux animaux en oubliant les hommes, qui se trouvent évidemment totalement démunis. Il faut alors que Prométhée intervienne pour compenser les erreurs, les oublis de son frère qui s'appelle après tout celui qui pense après. Et le sophiste Protagoras va activer alors la tradition qui fait de Prométhée le bienfaiteur de l'humanité. Il vole le feu, il vole aussi les compétences techniques d'Héphaïstos pour en doter les hommes, mais, et c'est le point évidemment central du mythe du Protagoras, cela ne suffit pas aux hommes à faire société. Ils continuent à ne pas réussir à maintenir leur groupe en harmonie. C'est donc Zeus qui doit intervenir lui-même pour pourvoir les humains de la justice, la diké, et là c'est diké hein, qui apparaît, et de la retenue, aidos, on va revenir sur la notion, deux éléments qui sont indispensables à la vie en cité, et au savoir de la cité qu'est la politique. Et c'est finalement ces diké et aidos qui permettent la vie en commun. C'est très clair dans le mythe du Protagoras. Et je vous rappelle, c'est un passage que j'ai déjà souvent montré, je devais afficher ceci. Donc vous voyez, hein, Zeus craignant que ne disparaisse notre espèce tout entière, envoie Hermès porter aux hommes retenue, aidos et justice, diké, afin qu'il y ait dans les cités des principes d'ordre, cosmoi, et des liens d'amitié, desmoi filias. Et je vous rappelle que chez Hésiode, dans les travaux et les jours, c'est Zeus aussi qui est censé avoir donné diké aux hommes afin qu'ils ne s'entre-dévorent pas comme les animaux sauvages le font entre eux. Et vous avez ce passage sur lequel je reviendrai en fin de leçon. Zeus, aux humains, Zeus a donné justice, qui est de beaucoup le premier des biens. Donc c'est intéressant, à la fois chez Hésiode et chez Platon, c'est Zeus qui donne la justice. Bon, j'en reviens à Chiron, le centaure, et aux deux vers attribués à la Titanomachie, tout en étant consciente, et vous avez vu pourquoi il y a un instant, tout en étant consciente que l'interprétation d'un fragment est toujours délicate en l'absence de contexte. Je vais néanmoins tenter l'opération avec vous. Il est là aussi question de justice. Question de justice en relation cette fois donc avec la figure du centaure et plus avec la figure de Zeus lui-même. Et une telle association trouve son arrière-plan, je pense, au chant 11 de l'Iliade, où Chiron, qui est identifié comme précepteur d'Achille, est qualifié de dikaiotatos centauron, c'est-à-dire le plus juste des centaures. Il y a donc cette idée d'un centaure qui, contrairement aux autres êtres de son espèce, est particulièrement juste. On constate dès lors, et c'est évidemment ce qui m'intéresse ici, on constate que le serment s'inscrit dans le registre de la justice, mais que c'est manifestement le cas aussi des sacrifices et de la connaissance des signes divins. La liste qui est donnée dans ces deux vers semble se rapporter également à la dikaiosune. Avec les deux derniers éléments, sacrifice et signe, on retrouve des composantes importantes de la version prométhéenne des bienfaits alloués aux humains. C'est pour ça que je suis repartie en arrière sur ces données. Le serment, en revanche, apparaît ici comme une donnée originale, qui est liée donc à l'intervention du plus juste des centaures. Alors, l'association particulière de ces trois composantes articule en fait différents types de relations. Les serments, on l'a déjà vu chez Lycurgue tout à l'heure, les serments sont le vecteur de la confiance que les humains se donnent entre eux. Les sacrifices sont le vecteur des hommages que les humains rendent aux dieux. Et les signes de l'Olympe, si la proposition de D'Alessio est la bonne, avec schémata au lieu de schémata, les signes donc sont les vecteurs des informations que les dieux dispensent aux hommes. Donc chaque fois, on est dans un cadre relationnel. Dans les trois cas, donc, la voie de la justice que Chiron est censé avoir montrée aux hommes est faite des interactions qui la rendent possible. Entre les hommes avec les serments, des hommes aux dieux avec les sacrifices, des dieux aux hommes, puisque les premiers alertent les seconds par des signes. Nous sommes donc dans un registre relationnel. Nous avons vu l'an dernier, à propos des signes, je vous rappelle, le cas particulièrement significatif, et significatif au sens presque littéral du terme, du passage de l'Antigone de Sophocle. Souvenez-vous, quand on a parlé des sacrifices tragiques, j'avais mis sous vos yeux ce sacrifice qui ne fonctionne pas parce que le fait de n'avoir pas enterré le corps de Polynice est une faute grave au sein de la cité et la communication ne se fait plus. Donc vous avez ici, je ne relis pas tout le texte, ce serait trop long, donc la flamme qui ne s'élève pas clairement, des présages avortés de rites sans aucun signe, et vous avez ici Asémone, Asémone Orgione, donc sans les schémata nécessaires. Donc on voit bien que quand la communication est coupée des dieux aux hommes, ce sont les signes qui ne sont plus donnés. Donc on est vraiment dans le cadre de ce fragment, dans cette logique relationnelle. Alors, ce qui m'importe dans le cadre d'une analyse qui met en regard le serment et le sacrifice, c'est précisément la présence de ces deux éléments dans cette énumération qui parle de la justice donnée aux hommes. Et vous remarquez, non plus comme un dépôt de Zeus dans le cœur de chacun d'entre eux, c'est le cas des travaux et du Protagoras de Platon, mais par le biais de dispositifs relationnels qui structurent la société des hommes et leur rapport au monde des dieux. En effet, des serments qui apparaissent en tête de liste ne relèvent pas d'un processus exclusivement horizontal, puisque les dieux peuvent être invoqués dans ce cadre. Donc le dispositif relationnel, il est à plusieurs composantes. Et on peut faire l'hypothèse, en tout cas, que les Thucyae, qui se retrouvent en position médiane de l'énumération, en fait ont un rapport avec les deux éléments de part et d'autre, avec les serments, puisque le sacrifice peut intervenir, et c'est de cela que je vais vous parler, mais aussi ces schémata. On vient de le revoir dans l'Antigone de Sophocle. En conséquence, donc, on a ce processus rituel du sacrifice qui est déterminant dans ses composantes relationnelles de la justice telle que Chiron les met en place dans ce fragment de la Titanomachie. Là, je dois dire qu'il n'y a pas de rupture de réseau. Bien, alors, ce sont les schémata des dieux, en fait. Alors, je pense qu'ils ne sont pas contents. Alors, en attendant, après cette première ouverture vers un Chiron prométhéen, j'en arrive à mon deuxième point de la leçon, à savoir ce que la théogonie d'Hésiode nous dit du serment. Je vous ai dit que c'était une ouverture poétique, donc après ces deux vers de la Titanomachie, on va arriver dans un cadre un petit peu mieux affermi, puisque avec la théogonie, on a, ou en tout cas on peut l'espérer, l'ensemble du poème, ce qui est quand même plus confortable quand on veut procéder à une analyse. En effet, dans la théogonie, donc vous avez ces généalogies, et je vous remets sous les yeux les deux, en général les deux outils que je recommande pour appréhender la théogonie. En fait, les généalogies que l'on trouve dans la théogonie, je vous l'ai souvent répété, ce sont des opérateurs particulièrement efficaces pour saisir des représentations. Nous ne pouvons plus interroger les Grecs, mais leur poésie, et notamment leur poésie théogonique, nous permet de comprendre un peu moins mal la manière dont ils se représentaient, les notions et les puissances divines qu'ils mobilisent dans leur poésie ancienne. Le premier point, il sera donc généalogique, c'est Orcos comme fils d'Eris, c'est ce dont je vais traiter aujourd'hui, dans la deuxième partie du cours. Et puis, il y a aussi un autre volet, c'est celui de Styx comme Orcos des dieux, donc comme serment des dieux. Et là, pour ne pas dépasser une nouvelle fois le temps qui m'est imparti, j'ai reporté ce point à la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur la généalogie d'Orcos. Pour cela, il faut évidemment repartir du début de la théogonie avec la descendance de Nux, la nuit, hein, dont nous avons déjà parlé. Donc vous vous souvenez qu'au début de la théogonie, vous avez Chaos comme béance primordiale. Vous avez peu après qui vient au jour Gaïa et Eros, donc la terre et l'impulsion sexuelle. Et de lui-même, donc Chaos va tirer Erebos, Erebe et Nyx, et de l'union d'Erebos et de Nyx naît Aether et Hemera. Donc vous avez du chaos primordial naît l'air sombre, Erebe, c'est ça que ça signifie, l'air sombre, et la nuit, et de leur union donc naissent air lumineux et jour. Donc vous avez une sorte d'espace-temps primordial qui va associer l'air et la durée lumineux d'une part et l'air et la durée obscure de l'autre. En d'autres termes, c'est le temps qui se met en place, avec une alternance du jour et de la nuit, et donc les conditions nécessaires pour que la cosmothéogonie se mette en place, avec les dieux qui arrivent et les hommes. Il faut en revanche, et c'est ça qui va m'occuper, il faut en revanche attendre un petit peu, là on est vraiment au tout début du processus cosmogonique, il faut attendre un petit peu, une centaine de vers, pour voir arriver l'autre descendance de la nuit, ici, dont je vais vous parler. Mais entre-temps, pour comprendre toutes les implications de cette engeance nocturne, il faut se rappeler ce qui se passe entre-temps. Et vous vous souviendrez que Gaïa va donner naissance, va tirer d'elle-même Uranos, le ciel, mais aussi les montagnes. Ensuite, elle va tirer d'elle-même Pontos, la mer salée. Puis elle va s'unir à ces deux éléments qu'elle a produits elle-même. Elle va s'unir donc au ciel et elle va engendrer les titans, les cyclopes et les sans-bras. Donc tout ce processus intervient progressivement après l'émergence de ces entités primordiales. En fait, Gaïa va devenir grosse, et j'utilise exprès ce terme qui est peu élégant pour parler de la gestation, mais parce que c'est vraiment ce qui se passe. Dans la mesure où Uranos, vous connaissez le thème est célèbre, Uranos empêche la venue au jour de ses enfants, et donc la terre gémit sous le poids de ses enfants qui ne peuvent pas naître, et elle pousse ses enfants à la délivrer. Cronos va accepter le défi, et avec le métal inventé par sa mère, il forge une serpe avec laquelle il émascule son père. C'est le thème bien connu de la castration d'Uranos. Cette castration va libérer la terre, les enfants vont voir le jour, mais ce n'est pas le seul de ses effets, puisque du sang qui est évidemment lié à la blessure, sang qui tombe sur la terre, naissent les géants, les nymphes d'Éphrène et les Érinies. ce sont des entités dont je vous ai déjà parlé, et du sexe tranché d'Uranos qui est jeté dans la mer naît Aphrodite. Donc vous avez, c'est la castration qui va donner deux types d'entités. D'un côté, donc, les géants, les nymphes, des frênes et les érinies naît du sang, et Aphrodite naît du sexe d'Uranos dans la mer, et de l'écume de la mer. Donc c'est une thématique qui est bien connue, mais que je voulais rappeler parce que c'est évidemment ce forfait familial, la castration du père, qui va faire s'engouffrer dans le cosmos toute une série de mots. Toute une série de mots. Et c'est donc, d'un point de vue narratif, après cet épisode, qu'arrive l'énonciation en catalogue des enfants de la nuit. Ce n'est pas innocent, hein, que ce soit dans cet ordre-là qu'apparaissent les enfants de la nuit. Alors, les voilà, les enfants de la nuit, qu'elle tire d'elle-même. Donc là, elle s'était unie à l'Erèb pour mettre au jour Éther, l'air lumineux et le jour. Là, elle tire d'elle-même toutes ces choses terribles. Je lis la traduction, donc l'eau fatale, mort noire, sommeil, songe, sarcasme, lamentation de souffrance, nymphes du soir, les hespérides, c'est comme ça, si on veut les traduire, c'est comme ça qu'on doit les traduire, les parts de vie, les morts, la réprobation, la tromperie, l'union intime, la vieillesse funeste et la lutte. Je vais revenir sur ces différents points. Ces entités qui sont nées par parthénogenèse, dit-on, hein, de la nuit, sont soit franchement négatives, comme les différentes déclinaisons de la mort, ou la lamentation de souffrance, ou la tromperie, soit ambiguës, comme hypnos, le sommeil, les rêves, les moires, les parts de vie, et némésis et philotès, sur lesquels je vais revenir. Quant à la dernière née, ici, elle est vraiment la dernière dans la liste, Eris, elle aussi est extrêmement ambiguë. Elle est ambiguë et Hésiode le reconnaîtra lui-même dans les travaux et les jours. C'est très intéressant ce passage sur la lutte, sur Eris, parce que c'est un des rares cas où l'on voit une sorte de palinodie, de retour en arrière par rapport à quelque chose qui a été énoncé. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où Eris, la lutte, est enfant de la nuit, elle est quand même connotée très négativement. Et Hésiode, dans les travaux, va affirmer que finalement, il y a deux Eris. Donc, soulignant particulièrement fortement l'ambiguïté. Je lis avec vous. Il n'est pas sur la terre une seule espèce de lutte. Elles sont deux. Qui connaît la première dira son éloge. La seconde est digne de blâme. Leurs cœurs s'opposent. L'une, en effet, accroît le combat et les guerres lugubres, malencontreuses. Les hommes laborent. C'est sous la contrainte, par volonté divine, qu'ils honorent la lutte pesante. Donc c'est une entité divine, donc il faut l'honorer. C'est la règle. L'autre est la première que mit au monde nuit ténébreuse. Donc il assume l'ascendance nocturne. Zeus, qui tient le grand jour au séjour éthéré, le Cronide, aux racines de la terre, en fit un profit pour les hommes. Elle réveille l'ardeur au travail, des cœurs sans courage. Et s'ensuit toute une série d'exemples de l'émulation au travail. Si vous voulez, la lutte positive, c'est l'émulation, la saine émulation. C'est dès lors cet Eris-là, évidemment, que le frère d'Hésiode, Persès, le prétendu frère, doit poursuivre, celle qui rend opiniâtre à la tâche, dure à la tâche, et non celle qui caractérise les conflits sur l'agora. Hésiode fait une distinction entre les deux. Donc vous voyez que dans cette version affinée de la théogonie, les deux Eris sont nés de la nuit aussi. Tout se passe comme si dans cette palinodie, Hésiode rendait explicite ce qui n'était qu'implicite dans la version antérieure, à savoir l'ambivalence de la puissance divine qu'est la lutte. Et vous comprendrez aussi pourquoi j'ai choisi, avec d'autres, je ne suis pas la seule, la traduction par lutte pour Eris. On trouve, et on le verra dans un instant, parfois la notion de discorde ou de conflit. Mais en fait, avec la discorde et le conflit, on met l'accent sur la négativité. Avec la lutte, on reste de ce point de vue dans l'ambivalence qui sous-tend le mot grec lui-même. Mais poursuivons parce que je ne vous ai pas encore parlé d'Orcos. Le voilà. Parce qu'il y a une deuxième couche à cette négativité des enfants de la nuit, c'est qu'Iris elle-même va tirer d'elle-même toute une série d'entités particulièrement négatives, s'aligner des, finalement, les petits enfants de la nuit sont encore plus, enfin, la lignée est encore plus noire que celle de ses enfants. On va y trouver notamment la mort. Vous voyez ici combat, bataille, meurtre, tuerie, c'est-à-dire non plus la mort en général, celle qui advient au bout de l'existence, mais bien la mort violente. On trouve aussi le registre de la parole, ce qui est très intéressant à partir du moment où on réfléchit sur le serment. Vous avez les querelles, les mensonges, les discours doubles, l'aveuglement. Donc vous avez aussi tout ce champ que l'on avait avec sarcasme et tromperie à la génération précédente, mais qui s'accentue à la génération des enfants d'Eris. Peut-être aussi l'oubli d'ailleurs dans ce même registre. Et puis, évidemment, nous arrivons à Orcos, le serment, qui referme la liste et dont le poète va commenter en deux vers le profil. Parce que parfois, on a dans la théogonie, vous avez simplement le nom des puissances qui viennent au jour, et puis parfois il y a un commentaire, une sorte de glose qui donne un peu de corps à cette entité. C'est le cas pour Orcos. Et que nous dit Hésiode, Orcos, qui le plus souvent, pour les humains de cette terre, est un fléau, chaque fois que délibérément on prête un faux serment. Vous avez ici, donc, pemainein, le verbe qui signifie être un fléau, et epiorkon, donc c'est le parjure. Donc vous voyez que la tonalité est franchement négative, en dépit de la restriction ici du playstone, le plus souvent, il y a quand même une marge positive, c'est-à-dire quand on tient son serment. Mais dans cette perspective hésiodique, effectivement, c'est négatif. Et donc, la généalogie qui fait d'Orcos un petit-fils de la nuit, et un fils de la lutte, colore de façon particulièrement sombre ce que les vers de la titanomachie par lesquels j'ai commencé mon propos d'aujourd'hui connotaient tout autrement, puisqu'il s'agissait d'associer les serments à la justice, sous l'égide du plus juste des centaures. On voit bien que la tonalité ici est différente. Et il persiste et signe dans les travaux et les jours, quand il parle. Vous savez, les travaux et les jours, donc c'est un poème qui parle des travaux, des champs et des jours adéquats pour les mener à bien. Et dans cet énoncé des jours fastes et néfastes, voici ce que le poème nous dit. Évitez, enfin, il dit plutôt aux agriculteurs auxquels il s'adresse, évitez les cinquièmes jours du mois. Ils sont pénibles et néfastes. Heureusement que je ne vous dis pas ça la semaine dernière. Je ne vous disais pas ça la semaine dernière. Ils sont pénibles et néfastes. C'est un cinquième jour, dit-on, que les Érinnies, les voilà, entourèrent la naissance d'Orcos, enfanté par Eris, pour être le fléau des parjures. On trouve donc le lexique de la théogonie. Je les ai mis en évidence. Vous avez le verbe ici, le substantif ici, le pema, et puis vous avez l'orcos, et vous avez de part et d'autre la notion de parjure. Donc, dans cette affirmation lapidaire, ici, c'est pour les parjures que le serment a vu le jour, alors que nous aurions plutôt tendance à considérer que le parjure est une conséquence du serment. Et c'est un point qu'avait particulièrement bien mis en évidence Nicole Leroux dans un article qui s'appelle « Serment fils de discorde ». Vous voyez qu'elle a choisi discorde parce qu'elle place résolument sa réflexion sur le pôle négatif. Mais c'est elle qui avait effectivement bien mis en évidence ici le fait que le serment semble fait pour les parjures. Et si l'on croise les données des deux œuvres, des deux poèmes, La configuration à l'œuvre de ce cinquième jour, donc les Érinies, Eris, Orcos, est une sorte de condensé des mots qui se sont engouffrés dans le monde après la castration d'Ouranos. C'est pour ça que je voulais absolument revenir en arrière tout à l'heure sur le déroulé des premières générations de la théogonie, parce qu'évidemment, le surgissement des Érinies du sang de la castration d'Ouranos est lié, prend tout son sens dans cette mise en regard. Et tous ces mots qui naissent de cette castration d'Ouranos vont évidemment surtout s'appliquer au monde des humains. La mort, bon, la vieillesse, les maladies, bon, voilà, c'est une affaire humaine. Et ça va consacrer finalement les êtres humains dans ce poème comme des êtres éphémères et fragiles. Je vous ai déjà dit que la condition humaine est définie progressivement dans le poème, et c'est la crise prométhéenne qui va mettre le point final à cette définition en mettant en évidence la nécessité du sacrifice pour honorer les dieux, la nécessité d'épouser une femme pour avoir des enfants légitimes dans un cadre matrimonial, et la production des biens agricoles. Donc on voit que cette humanité se constitue progressivement et que ces entités négatives sont le premier moment de ces mots, les mots de la constitution humaine elle-même, de l'être humain lui-même. Donc on le voit dans les deux œuvres d'Hésiode, attribuées à Hésiode, la condition humaine est profondément ambivalente et le sont tout autant bien des éléments qui la constituent. Et Nicole Leroux, je reviens à elle, dans cet article que j'ai cité, soulignait le caractère à première vue surprenant de la généalogie qui donne à Orcos et Rhys pour mère, car je la cite et je cite le texte que vous avez à l'écran, on associerait d'autant plus aisément le serment avec la philia, ou pour parler la langue d'Empédocle, avec la philothèse, qu'il semble voué dans la pratique civique la plus partagée à assurer l'ordre de la cité incarné dans sa constitution contre toutes les menaces de trahison et de stasis. La stasis, donc, c'est la guerre civile. Et c'est effectivement la vision dont témoigne le discours contre Léocrate de Lycurgue sur lequel j'ai ouvert mon cours d'aujourd'hui, ou les deux vers de la Titanomachie. Toutefois, il me faut souligner un point qui nuance les propos de l'autrice sans les invalider, mais je dirais que je vais ajouter une couche de complexité. En effet, vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans cette série d'enfants de la nuit, il y a Philothèse. Il y a Philothèse, donc, que vous avez cité ici en lien avec Philia. Donc Philothèse, elle est là, et donc en termes de parenté, Philothèse, c'est la tante d'Orcos. Elle est donc loin d'être conçue comme la puissance un peu irénique de l'attachement affectif, voire de l'union sexuelle, puisque Philothèse peut aussi recouvrir ce sens-là, en tout cas chez Hésiode, dans la mesure où, dans la vision des anciens, l'union sexuelle, c'est aussi ce qui mêle les corps et les épuise. On parlera de la petite mort. Et donc vous avez cette connotation ambiguë autour de la notion de philothèse. Donc il n'est pas fortuit qu'elle appartienne aussi à la génération des enfants de la nuit. Elle est une sœur d'Eris, ce qui exprime son ambivalence. En conséquence, dans l'évocation hésiodique des composants de la vie humaine, donc qui ont surgi avec les enfantements de la nuit et de sa fille, l'ambivalence le dispute à la négativité pure et simple. Que ce soit donc l'engagement affectif, voire sexuel, qu'incarne Philothèse, ou l'engagement verbal qu'incarne Orcos, ils sont marqués d'une polarité, me semble-t-il, qui fait osciller du positif au négatif selon les contextes. Et il est très significatif pour asseoir davantage mon argument. Je veux vous revenir sur certaines des composantes de cette liste qui, à première vue, sembleraient négatives. Mais encore une fois, c'est plus compliqué chez Hésiode. En effet, par exemple, je prends le cas des moires, les moirai, les parts de vie. Elles sont donc présentes dans la descendance de Nux que vous avez sous les yeux, mais elles sont aussi présentes dans la descendance de Zeus et de Thémis à la fin du poème. À la fin du poème, vous vous souviendrez que Zeus s'unit à toute une série d'entités divines, dont Thémis, la juste coutume, comme traduit Bonafé, donc le filet régulateur du cosmos, avec comme enfants les Horaï, les Charites, mais aussi les Moires, les Moirai. Les Moirai. Alors, cette double généalogie qui a été beaucoup discutée n'est pas une sorte de bégayement étrange du poète qu'il faudrait soigner ou une interpolation malheureuse qu'il faudrait éradiquer. Je pense que si on assume cette double ascendance des Moires, c'est le signe manifeste de la polarité qui les caractérise. Tantôt dispensatrice des parts de vie et donc de la mort qui termine le parcours, tantôt instance de régulation positive, parce que dans cet ensemble ici, ce sont des instances, notamment les Horaï ici, des instances de régulation positive. Je vous rappelle le Nomia dont j'ai abondamment parlé précédemment en 2022. Il y a Dike, que l'on va retrouver encore et que l'on piste depuis tout à l'heure avec l'intervention de Chiron. Vous avez la paix. Donc, les instances de régulation positive, elles sont dans ce package-là, si je puis dire. Mais le fait qu'elles soient, dans le cas des Moires, aussi du côté des enfants de la nuit, est évidemment significatif de cette polarité. Quant à Orcos et Philotès, Orcos, Philotès, Hésiode a choisi d'en souligner prioritairement le pôle négatif en les plaçant dans la sombre lignée de la nuit. Et effectivement, la place d'Orcos à la fin de cette engeance sortie de la lutte le marque évidemment particulièrement négativement. Mais ce n'est pas les Moirai ne sont pas les seuls, ou Philotès ne sont pas les seuls éléments qui montrent qu'il y a une ambiguïté dans tout cela. C'est le cas aussi de Némésis, que j'ai traduit ici par réprobation. Parfois, vous trouvez la traduction de vengeance, qui n'est pas fausse dans un certain nombre de cas, mais c'est la polarité négative. Avec réprobation, on conserve l'ambiguïté de la notion. En effet, donc, elle est aussi enfant de la nuit et... Ah, je n'ai pas repris l'expression. Attendez, je vais vérifier. Non. En fait, le poète dit, quand il parle de Némésis, qu'elle est un fléau pour les hommes mortels. Pema tsnetoissi brotoissi. Donc là aussi, Némésis, comme Orcos, est considéré comme un fléau. Mais ça ne dit pas toute l'histoire. Parce que dans les travaux et les jours, quand Hésiode évoque les calamités de l'âge du fer, vous vous souviendrez, hein, tous ces guénets, donc ces espèces humaines qui se succèdent et qui sont associées à des métaux. L'âge du fer, c'est celui du poète. C'est celui du poète et, dit-il, des biens sont pour eux, donc ces humains de l'âge du fer, mêlés aux maux. Mais la situation risque de se dégrader. Et vous allez voir que ça résonne malheureusement avec notre actualité. Ça va se dégrader. Et que nous dit Hésiode ? La grâce du serment ne sera plus reconnue. Donc, vous voyez, là, on est dans une tonalité positive du serment. La grâce du serment ne sera plus reconnue, ni celle du juste, ni celle du bien, et c'est au faiseur de mots et à l'homme de démesure qui iront les hommages. La force sera la justice, et la retenue aura disparu. Et vous avez Dike et Aidos qui sont les deux éléments que Zeus avait mis dans le cœur des hommes chez Platon pour qu'ils puissent faire société. Le malfaisant attaquera l'homme de bien en énonçant des propos retors et il se parjurera. Et vous voyez ici, on retrouve l'épiorcos qui est la trace du parjure. Et alors, à ce moment-là, nous dit encore Hésiode, et c'est la suite. Donc dans ce deuxième moment de l'âge du fer, et alors elles quitteront pour l'Olympe la terre aux larges routes, revêtant leur corps magnifique de voiles splendides, abandonnant les humains, rejoindront la tribu des immortels. Aidos et Némésis. Il ne restera plus chez les humains mortels que les lugubres souffrances, le mal n'aura plus de remède. Et donc vous voyez que Némésis, en l'occurrence, est ici connoté positivement. C'est la réprobation sociale qui se trouve en face de la retenue individuelle, l'aidos. Et donc, quand Némésis aura quitté la terre, il ne restera plus que les souffrances. Donc vous voyez qu'effectivement, cette lignée-là dans la théogonie, elle est particulièrement négative. Et après cette terrible vision du deuxième âge de fer, Hésiode interpelle à nouveau Persès et condense en quelque sorte les propos du récit des cinq espèces humaines et il l'exhorte à nouveau et je lis ce passage avec vous. Toi, Persès, écoute la justice et ne te soumets pas à la démesure. Cette opposition entre Diké et Hubris, c'est quelque chose de récurrent dans les travaux et les jours. Car la démesure est un mal pour l'humain faible, pas même le noble ne pourrait facilement la porter, il croule sous elle, il trébuche et se perd. De l'autre côté, une route meilleure mène aux actions justes, les Dikaya. À la fin, Diké l'emporte dans son accomplissement sur la démesure, l'insensé qui souffre finit par comprendre. Et, que dit-il ? Pardon. Aussitôt, serment, poursuit les sentences retorses. C'est le tumulte quand Diké est traîné là où l'amènent les hommes mangeurs de présents et il tranche les arrêts de la Thémis par des sentences retorses. Donc vous voyez les sentences retorses et serment qui poursuit ces sentences retorses est aussi un élément et important dans le processus de la parole juste ou injuste dans le cadre de ces micro-cités de la période archaïque. S'ensuivent une cinquantaine de vers où on a notamment les 3000 immortels qui surveillent les humains dont je vous ai parlé à propos des daimonos il y a bien des années. Et puis, on a le nomos de Zeus auquel je suis revenue tout à l'heure, que je ne relis pas, mais on donne la justice aux hommes pour qu'ils ne s'entretuent pas. Mais cette fois, je poursuis la lecture. En général, je m'arrête au vers 281. Si on regarde à partir du vers 282, que dit Hésiode ? Donc on finit ici, celui qui consent à exprimer de justes propos, les Dikaya ici, en connaissance de cause, Zeus qui voit tout lui donne d'être prospère. Qui prêterait de son gré un faux serment devant témoin et qui blesserait sans retour la justice, laisserait après lui une descendance obscure ? L'homme fidèle au serment, et vous voyez ici l'alternance entre l'épi-orcos et le-orcos, comme on a dans Eunomia, par exemple. Et donc, contrairement au parjure qui a une descendance obscure, l'homme fidèle au serment, une descendance vaillante. Donc, vous voyez que les justes propos que l'on avait au vers ici 281, non, pardon, au vers 280, Tadikaya, sont intimement liés à la fidélité, à la parole jurée qui garantit la prospérité. Et on perçoit dans ces vers l'évocation de l'imprécation, l'imprécation que le jureur va lancer sur lui-même. Ce sont des choses auxquelles je reviendrai. C'est ce qu'évoquait Lycurgue aussi tout à l'heure dans le contre-Léocrate avec le fait que si ce n'est le parjure qui reçoit la sanction divine, c'est ses enfants après lui. Donc on a cette idée extrêmement importante. Donc que ce soit donc l'engagement et la fiabilité de la parole, donc Orcos et Diké sont étroitement associés et omniprésents dans la micro-société au sein de laquelle s'élève la voix du poète. Et donc c'est finalement la justice qui est malmenée par ces êtres d'hubris, de démesure que sont les basilei mangeurs de présents qui émettent des sentences retorses et les parjures. Donc cette question de la parole est extrêmement importante, et on voit pourquoi finalement, dans la perspective de la théogonie, Orcos se retrouve avec les discours doubles, parce que c'est le problème de la parole. Alors mais ce que je veux vraiment souligner ici, c'est cette ambiguïté profonde, même si la généalogie pousse dans la théogonie vers la négativité de potentielle de ces paroles, on voit que dans toute une série d'affirmations, notamment dans les travaux et les jours, tout cela est plus complexe et plus ambigu, on va dire, plus ambivalent. J'attire votre attention à ce propos sur la figure dont je vous parle souvent, à savoir le prototype féminin fabriqué par Zeus pour les hommes. Elle aussi, c'est un pema. Vous voyez, un pema megat net aussi, un fléau, un grand fléau pour les mortels. Mais là encore, quand après sa diatribe, la diatribe misogyne la plus souvent citée pour dire que les Grecs sont misogynes, que nous dit Hésiode ? Que celui qui a une épouse bienfaisante verra toute sa vie le mal compenser le bien sans trêve. Bon, celui qui a une mauvaise épouse, c'est fichu. Mais vous avez cette alternance, et c'est ça que je veux vraiment souligner. La définition de la condition humaine dans tous ces textes, c'est une alternance de bien et de maux. Et de ce point de vue, Orcos fait partie de ce panorama, si vous voulez, fait profondément d'ambivalence. Alors, je vais conclure ce point sur Orcos, fils d'Eris, et ma leçon par la même occasion. Et je redirai qu'à la suite de la castration d'Ouranos, donc chez Hésiode, les maux sont entrés dans le monde, et avec eux, la sanction des comportements contraires à la thémis, sur un plan cosmique, et contraires à la diké dans la vie des hommes. Donc, diké qui traduit en quelque sorte les arrêts de la thémis parmi les hommes. Vous avez vu, diké est la fille de Thémis et de Zeus. Et c'est sur un tel arrière-plan que se situe le serment, qui est finalement indissociable de la difficulté des humains à faire société de façon harmonieuse. Et donc vous avez une ambivalence profonde de ces processus. Alors certes, Orcos est fils d'Eris, mais je ne traduirai pas dans ce cas-là Eris comme discorde, mais comme lutte, pour essayer de conserver à cette généalogie toute son ambivalence. Alors évidemment, et ça ce sera le point de la semaine prochaine, les dieux eux-mêmes, dans la théogonie, ont des comportements qui sont susceptibles de contrevenir aux règles de la thémis, ce que d'ailleurs Platon leur reprochera beaucoup, par après. Il suffit de penser aux agissements des premiers souverains du cosmos avant l'arrivée de Zeus. On a parlé de la castration d'Ouranos, on ne peut pas dire que ce soit conforme à la thémis. Cronos lui-même avale ses enfants taurons pour éviter qu'il le détrône. Donc tout ça montre aussi, dans une certaine mesure, la difficulté des dieux à faire société divine cette fois. Difficulté que Zeus va venir régler. Et dans cette société divine, il y a aussi un serment. Et ce serment, c'est le Styx. Et ça, nous en parlerons la semaine prochaine. Merci pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.